buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, aujourd'hui encore nous vous proposons les meilleurs moments d'Accent d'Europe au menu des fruits et des légumes turcs saturés de produits chimiques. Un immeuble qui se met au vert à Turin, la légalisation de la boxe pro en Norvège, le nouveau truc des Britanniques pour décompresser les piscines à balles, enfin le groupe anglais Diagrams. Les agriculteurs turcs utilisent moins de produits chimiques que ceux d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Pourtant, comme l'a révélé il y a 3 ans une étude de l'ONG environnementale Greenpeace, c'est dans les fruits et légumes turcs que l'on trouve le plus de traces de substances chimiques en Europe. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Quelles sont les options pour les producteurs turcs qui veulent se tourner vers une agriculture plus saine, voire bio ? Anne Andlauer a mené l'enquête dans la région Égéenne, celle qui, avec la région méditerranéenne, est de loin la plus touchée par ce problème en Turquie.
Jour de marché sur la place principale de Seferihisar. Les agriculteurs de ce district au sud-ouest d'Izmir, sur la côte Égéenne, étalent leurs produits de saison. Tomates, oranges, salades, citrons s'offrent en petite pyramide à côté des dernières mandarines de l'hiver, spécialité de la région. Contrairement au marché du samedi, celui-ci n'est pas organique, comme on dit en turc, c'est-à-dire que ces fruits et légumes ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Comme l'écrasante majorité des fruits et légumes de Turquie et du monde, ils ont poussé sous l'effet d'engrais industriels et autres produits chimiques de synthèse. Ahmet Yaşar, agriculteur de père en fils, explique pourquoi deux fois l'année, il asperge de ses produits, ses mandarines et artichauts.
Que ça me plaise ou non, c'est obligatoire. Sinon, mes artichauts et mes mandarines se couvrent de taches brunes à cause des insectes. Le goût ne change pas, mais l'apparence est gâchée. Et ça ne plaît pas aux consommateurs.
En matière d'usage d'engrais chimiques, de pesticides, herbicides et autres fongicides, l'agriculture de ce pays est un paradoxe. Que ce soit les Nations Unies, via son Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ou des ONG internationales comme Greenpeace, tout le monde s'accorde à dire que la Turquie déverse moins de produits chimiques par hectare cultivé que la plupart de ses voisins européens comme la France ou l'Allemagne. Mais, et c'est là le paradoxe, des résidus de ces produits chimiques sont détectés plus souvent et en plus grande quantité dans les fruits et légumes turcs que dans ceux de ces autres pays européens. Comment expliquer ce paradoxe ? Ahmet Atalok, président de la Chambre des ingénieurs agricoles d'Istanbul.
C'est d'abord un problème de formation pour nos agriculteurs. Le problème, c'est moins l'usage de produits chimiques que le fait de ne pas respecter les dosages, les périodes d'utilisation, les temps d'attente avant la récolte ou d'utiliser des pesticides non adaptés aux produits agricoles traités. En Turquie, malheureusement, l'accumulation d'erreurs dans l'usage des pesticides explique en grande partie les niveaux importants de résidus dans nos fruits et légumes.
Il y a quelques années, la Chambre des ingénieurs agricoles a alerté le gouvernement avec succès, se félicite Ahmet Atalok.
Il y a 4 ans, nous avons choisi 10 fruits et légumes sur un marché. 7 d'entre eux présentaient des résidus anormaux de produits chimiques, dont certains étaient même interdits à la vente. Nous en avons informé le ministère de l'Agriculture. Depuis, le ministère a renforcé ses contrôles et s'est mis à inspecter non seulement les lieux de vente, mais aussi les lieux de production, c'est-à-dire les champs et les serres.
L'augmentation des contrôles semble porter ses fruits. En matière de produits chimiques, l'harmonisation des normes turques et européennes est désormais achevée. Le nombre de résidus interdits ou détectés en trop grande quantité diminue. Le gouvernement a développé un programme dit « de bonnes pratiques agricoles » qui délivre des certificats et accorde des aides aux producteurs respectant les normes. Ahmet Yaşar, l'agriculteur du marché de Seferihisar, en bénéficie depuis 2 ans.
Je me sens mieux informé. Avant, c'est vrai, j'utilisais ces produits chimiques sans trop savoir, en regardant faire les autres. Fatalement, c'est comme ça qu'on fait des erreurs.
Cela ne veut pas dire, loin de là, que les problèmes aient disparu, ni que les agriculteurs qui renoncent aux produits chimiques soient particulièrement aidés. Après plus de 15 ans d'agriculture conventionnelle, Asuman et Ismail Ermak, producteurs d'huile d'olive et de mandarine à Seferihisar, ont sauté le pas il y a 10 ans.
Nous sommes passés à l'agriculture biologique quand un cancer de la prostate a été diagnostiqué chez mon mari. Ses vitamines, ses engrais chimiques, ses pesticides, c'est ce qui l'a rendu malade. À l'époque, la mairie d'Izmir et celle de Seferi Hisar lançaient justement un programme pour encourager l'agriculture biologique.
Vous voyez tous ces insectes dans la bouteille ?
Dans les champs du couple Rmak, les herbes sont arrachées à la force des bras et non aspergées d'herbicides. Les insectes sont éloignés avec des pièges que fabrique Ismaïl. Tous les ans, pour chaque sorte de fruits ou de légumes récoltés, ils font venir des inspecteurs et obtiennent un certificat à leurs frais. Malgré l'aide financière de l'État, minime cela dit, le couple ne s'en sort plus.
Là où mon voisin vend ses mandarines 70 centimes le kilo, je vends mes mandarines bio pour une lira. Autant dire que je ne les vends presque pas. Ajoutez à ça le fait que les mandarines du voisin sont plus grosses et que ces arbres produisent plus de fruits grâce aux engrais qu'il utilise. Je ne peux pas rivaliser. J'ai donc décidé de vendre mes mandarines bio au prix des mandarines non bio l'an prochain. Je n'ai pas le choix, j'ai trop perdu ces dernières années.
Ces producteurs préfèrent donc vendre leurs mandarines à perte plutôt que d'augmenter leur production et diminuer leurs coûts en ayant recours aux produits chimiques. Mais ce choix demeure ultra minoritaire. L'agriculture biologique représente moins de 3% des terres cultivées en Turquie.
Se mettre au vert au cœur de l'une des villes les plus polluées d'Italie, c'est possible à Turin, où l'architecte Luciano Pia a conçu un immeuble de 63 appartements nichés au milieu de 150 arbres, explication de Cécile Debarge.
En remontant la rue Chiabrera, à deux pas du parc Valentino et du Pô, impossible de rater le numéro 25. Des arbres grands de 2 à 8 mètres se faufilent à travers des terrasses en bois et un tapis de feuilles vertes recouvre une partie de la façade. C'est un peu comme une cabane d'enfant au milieu de la forêt, mais haute de 5 étages et ultra design. Le tout fait 7500 mètres carrés et a été imaginé par l'architecte turinois Luciano Pia.
J'ai voulu rappeler qu'à proximité de l'immeuble, on a une colline et un fleuve, et c'est pour ça que j'ai recréé un îlot de verdure au milieu du bâtiment. Et donc, la construction est née autour de ce petit bois, et les appartements se trouvent à l'intérieur de ce bois. Vivre dans cet immeuble, c'est comme vivre au milieu des arbres.
Son immeuble forêt, c'est aussi le pari d'un bâtiment à haute efficacité énergétique grâce au végétal. Protection contre le bruit, contre les particules fines de la pollution atmosphérique, régulation de la température des appartements. Les plus de 150 arbres de l'immeuble servent à tout, et notamment à réduire la consommation d'énergie pour le chauffage. Après 5 ans de travaux, les premiers habitants s'y sont installés il y a quelques mois. Certains ont même déjà commencé à planter fruits et légumes dans les potagers prévus à chaque étage. Pour ceux que cette maison forêt fait rêver, il reste quelques appartements en vente, mais mieux vaut avoir quelques économies de côté. Comptez 980 000 euros pour 180 mètres carrés avec 6 pièces et 2 salles de bain. Pour un appartement similaire avec un toit terrasse de 200 mètres carrés, il faudra débourser près d'1 million d'euros en plus. Et pour les voisins qui doivent se contenter de leurs appartements gris, tout n'est pas perdu. L'immeuble forêt leur offre un air plus respirable. En plus d'absorber 200 000 litres de CO2 la nuit, il produit 150 000 litres d'oxygène par heure pendant la journée. The boxer isn't finished, he's not ready to die. I'm attracted to the light.
Une petite révolution dans le monde de la boxe norvégien. Depuis 33 ans, seuls les amateurs avaient le droit de s'affronter sur le ring. La boxe professionnelle était interdite, considérée comme trop dangereuse. Tout a changé depuis le 1er janvier dernier. Dans les clubs d'Oslo, les amateurs éclairés se prennent à rêver d'une carrière. C'est un reportage de Pauline Curtet.
Crochet du droit, du gauche, esquive. Inlassablement, la vingtaine de boxeurs du club IF Ornulf, l'un des plus anciens d'Oslo, travaillent à améliorer leur technique. Ce n'est qu'un entraînement, mais les coups fusent et quelques lèvres saignent. Rien de grave assure les boxeurs. Beaucoup d'entre eux s'accrochent à une nouvelle perspective, celle de devenir boxeur professionnel. C'est le cas d'Adam Mohamed qui tombe les gants pendant quelques minutes, le temps de parler de son rêve.
Quand j'ai commencé la boxe, j'ai compris que c'était ce que j'aimais. Grâce à ce sport, je suis devenu plus discipliné et surtout, il fait de moi une personne meilleure. C'est vraiment ce que je veux faire comme métier. J'ai 30 ans, certains diront que je suis trop vieux, mais j'y crois. Après tout, beaucoup de boxeurs ont combattu jusqu'à leurs 50 ans.
Dans le ring des amateurs, le seul autorisé en Norvège de 1982 jusqu'au mois de janvier dernier, on doit porter casque et protection. Les rounds sont moins longs et on ne peut pas gagner par KO. Chez les pros, seul son poing ganté peut servir de protection et le KO est signe d'une belle victoire. Surtout, la boxe professionnelle signifie aussi que l'on peut gagner sa vie en tant que boxeur. Yvette Krogerud a une longue carrière d'amatrice derrière elle. Les soirs et les week-ends, elle se partage entre entraînement et compétition pour conserver son titre de championne de Norvège dans sa catégorie. En journée, elle exerce son métier, coiffeuse. Mais le passage côté pro, ce n'est plus pour elle.
Je suis vieille, vous savez. J'ai 34 ans. Je voudrais boxer aussi longtemps que possible et pour cela, il vaut mieux que je reste en amateur. Mais si j'avais été plus jeune au moment du changement de loi, je suis sûre que j'aurais essayé de devenir pro.
Étudiant en droit, Kazim Luntiaz, lui, n'exclut pas l'idée de mettre ses études de côté pour s'investir à 100% dans la boxe professionnelle.
Ce changement de règles me motive, ça m'encourage à continuer, à travailler dur. Jusqu'à présent, beaucoup de boxeurs avaient du talent, mais arrêtés, car ils ne pouvaient pas devenir professionnels. Et puis, ça va peut-être aider à changer l'image de ce sport. Avec l'interdiction, la boxe était vue comme une activité très brutale, pas très attirante. Maintenant, c'est un peu plus populaire, les gens considèrent ça comme un véritable sport.
Autre salle de boxe, même ambiance. Ici, on est dans le club de Daimi Akin, situé en banlieue d'Oslo. Lui-même ancien boxeur amateur, le coach Akin ne peut que se réjouir de voir son sport revenir en grâce dans son pays.
On va pouvoir profiter de la boxe au maximum. Jusqu'à présent, il fallait voyager à l'étranger pour disputer des matchs de pro. Maintenant, on peut organiser de tels événements ici. On va avoir plus de publicité et nous pourrons décrocher des sponsors, nouer des partenariats avec certaines chaînes pour la diffusion des matchs.
Pour autant, ce retour en force de la boxe professionnelle ne plaît pas à tout le monde en Norvège. Certains rappellent que ce sport est très dangereux pour la santé. D'autres, comme le comité olympique norvégien, craignent que la boxe ne devienne une affaire de gros sous. Per Tøyen, porte-parole de l'organisation.
En principe, nous n'avons rien contre le fait que des athlètes puissent gagner de l'argent grâce à leur sport. Mais ce qui est particulier avec la boxe, c'est que les matchs professionnels vont être organisés par des entreprises privées, en dehors des structures sportives classiques. Elles ne doivent pas se soumettre aux règles de notre organisation, en particulier aux règles antidopage. Pour nous, il est difficile d'accepter cela.
Les opposants à la boxe professionnelle ont cependant bien du mal à se faire entendre. Les premiers matchs pro-norvégiens pourraient avoir lieu au mois de mars, ce qui réduira encore le nombre de pays ayant interdit cette discipline. Désormais, seuls la Corée du Nord et l'Iran y mettent encore leur veto.
Hey Shelley! If you don't come out of there, I'm going to have to drag you out.
You can try, but you'll never catch me.
Shelly, come here!
Bazinga!
À Londres, comme dans toutes les grandes villes, la vie est parfois stressante, mais les Britanniques savent comment décompresser. Pas seulement au pub, une bière en main, mais en renouant avec les plaisirs simples du jeu. Dernière trouvaille en date, une piscine à balles pour adultes dans une galerie d'art au sud-ouest de Londres, Marie Billon.
Une fois adulte, on a l'impression qu'il est impossible de retrouver la légèreté de l'enfance. On a autre chose à faire que de penser à s'amuser tout le temps. Et puis physiquement, de toute façon, le corps est bien moins souple. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, eh bien faux et doublement faux selon la salle de jumping de la Pearl Fisher Gallery. Déjà, tout le monde a le droit de s'amuser, ça n'est pas le monopole des petits. Ensuite, il suffit tout simplement d'une piscine à balles pour retrouver les bonnes sensations de son enfance. Plonger, sauter, imiter un requin ou juste faire une petite bataille de balles amicales, tout est possible dans ce bassin qui reproduit naturellement une sensation d'apesanteur. Pour faire sa promo, la galerie diffuse sur son site une vidéo dans laquelle on voit une dizaine de jeunes adultes en train de faire des sauts acrobatiques avant de plonger dans cette mer blanche. Oui, parce que les boules ne sont pas multicolores comme dans les piscines des enfants, elles sont immaculées parce que le but est de se détendre, de se déstresser tout en s'amusant. Et pour lier le travail et le plaisir, la salle accueille même les entreprises qui voudraient faire leur réunion au milieu de ces 81 000 boules. L'amusement stimule la créativité, paraît-il. Et en plus, c'est gratuit. La galerie reverse même de sa poche une livre par visiteur à l'association Right to Play. Comprenez le droit de jouer qui promeut par le jeu le développement des enfants défavorisés à travers le monde. Alors, se détendre et s'amuser devient donc une bonne cause. Il faut quand même penser à réserver sa place vu que seulement 30 personnes peuvent s'ébattre dans la piscine en même temps. Et tous ceux qui l'ont testé sont formels, c'est de la balle.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui, une chronique musique un peu schématique avec le groupe Diagrams.
3 ans après un premier album remarquable, Sam Genders est aujourd'hui de retour avec un nouveau disque de son groupe Diagrams, formé quelque temps après avoir quitté Tongue, le collectif qu'il a fait connaître, où l'anglais avait quasiment inventé un genre, la folktronica, mot valise pour décrire un mélange audacieux et neuf de folk et d'électronique. Avec ce nouvel album, Diagrams se recentre sur une pop un peu plus simple et directe, soit des mélodies accrocheuses parfaitement mises en son, avec une science des arrangements épatante, comme sur cette Dirty Broken Bliss, où s'entrelacent harmonie vocale, claviers et volutes synthétiques. We drove our horses all the day to the setting sun. Sweat was raining from my brows, we were overcome, she said. Oh my God, what is this? Suck my skin, take my wrist. Let's go! Mist, suck my skull, hold my wrist. All we need is this dirty broken bliss to guide us over. All we need is time. Spoon grits of life. Drink these wonders. We can do combustion. We can take collateral perks. We can drink the whole thing. It's how this circus works with our X-ray eyes. No bonus. Suck my skull. Hold my wrist.
Dirty Broken Bliss, extrait du dernier album de Diagrams, la proposition musicale de Vincent Théval qui referme cette émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot.